professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau.
On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma.
Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti.
S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche.
Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues, enfin... Et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France.
Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quels sont les rapports discrets des Wadabé avec une société de pasteurs et de zébus parallèle à celle des humains? Que pouvons-nous apprendre des nomades Bassari et de leur relation avec les groupes sédentaires dans des zones plus densément peuplées de l'Iran? Pourquoi les collectifs monospécifiques? Philippe Descola, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Anthropologie de la nature, s'est engagé dans une entreprise de reconceptualisation de sa discipline dans le cadre de sa série pluriannuelle intitulée « Les usages de la Terre, cosmopolitique de la territorialité ». Il réinterroge dans ce cadre les modalités et les institutions du vivre ensemble dans les collectifs non modernes. Nous suivons depuis la semaine dernière ce qu'il appelle les collectifs humains et non humains, mobiles et encastrés, ces groupes qui n'ont pas de territoire propre. Ils sont insérés dans l'espace d'autres collectifs dont ils dépendent partiellement, non seulement pour l'usage de la terre, nous dit Philippe Descola, mais aussi dans certains cas pour l'accès à des puissances non humaines conditionnant cet usage. Dans la frange sahélienne, l'anthropologue explique, et je le cite, « Pour les Wadabé, l'encastrement des rapports à la terre en devient plus compliqué. Non seulement il leur faut cohabiter une partie de l'année avec les Aoussa, avec leurs champs de mil, leurs marchés, leurs villages et leurs génies locaux, non seulement il leur faut partager des itinéraires et parfois des points d'eau avec les Touaregs, les Toubous et leurs troupeaux, mais il leur faut encore côtoyer des pasteurs non humains, puissants et irascibles, qui semblent beaucoup moins nomades qu'eux. C'est la mobilité permanente des Wadabé qui leur permet de gérer ces différents rapports. » Aujourd'hui, Philippe Descola sort du présent de narration et met un coup de projecteur sur les évolutions plus récentes, exploitation minière, enjeux écologiques dans le Sahel, qui contraignent et restreignent, voire menacent le nomadisme. Nous découvrons les puits boutiques. Arrivant au terme de son analyse des collectifs mobiles et encastrés, il relève une des principales leçons de l'imbrication spatiale dans les usages de la Terre, et je le cite, « La co-résidence des collectifs différents est possible et même souhaitable quand ils exploitent des ressources différentes au sein d'un même territoire sans se porter tort réciproquement, une situation qui résulte de l'existence dans une même région d'une diversité de niches écologiques exploitables par des techniques complémentaires. » Dans une interview donnée en 2014 aux Inrecuptibles, Philippe Descola, qui recherche une approche moins anthropocentrique des sciences sociales, souligne que les non-humains sont partout et se rappelle aujourd'hui à notre bon souvenir. L'urgence conceptuelle et politique est de concevoir des outils qui permettent de faire entrer les non-humains au bercail, si je puis dire, et comprendre les formes collectives d'interaction qui permettent l'échange entre les humains et les non-humains. C'est d'autant plus important avec la crise écologique et climatique, nous dit-il encore. On ne peut pas considérer qu'il y a d'un côté les activités humaines et une physique du climat de l'autre. Nous débuterons aussi une nouvelle analyse, celle des collectifs monospécifiques à partir du monde animiste. Et nous gagnons tout de suite l'amphithéâtre du Collège de France le 30 mars 2016 pour le cours de Philippe Descola, « Les usages de la Terre, cosmopolitique de la territorialité », aujourd'hui quelques leçons de l'imbrication spatiale.
Alors il faut prendre en compte enfin un dernier type de collectif avec lequel les Wodabe entretiennent des rapports discrets. C'est une société de pasteurs et de zébus parallèle à celle des humains et avec laquelle il convient de maintenir des relations de bonne intelligence. La littérature ethnographique est peu diserte sur ce point que l'on doit comprendre pour l'essentiel en lien avec l'origine du bétail. La plupart des récits peuls font sortir le bétail d'une vaste étendue d'eau située à l'est, dans une région dont les Peuls seraient originaires et que certains d'entre eux assimilent à la mer Rouge. Le premier berger qui parvint à domestiquer les vaches s'appelle Fou chez la plupart des Wodabe. Voici en résumé son histoire telle qu'elle fut rapportée à Marguerite Dupire. Il y avait deux orphelins, un garçon et sa sœur cadette, qui habitaient au bord de l'eau. Chaque soir, ils allumaient un feu. Un jour, une vache sortit de l'eau et vint près du feu. Elle fit de même le lendemain. Les orphelins allumèrent un feu un peu plus loin de la rive. Alors, un grand troupeau sortit de l'eau et s'approcha du feu. Les orphelins essayèrent de traire les vaches, tandis que les veaux tétaient, et ils réussirent à traire les vaches. Les vaches repartirent dans l'eau. Le troisième jour, ils allumèrent le feu un peu plus loin, et les vaches sortirent de l'eau, vinrent autour du feu, et le frère et la sœur, malins, emmenèrent alors le troupeau avec eux. Ils se marièrent ensemble et eurent deux fils. Le premier fut l'ancêtre des Peuls, le second celui des Wodabe. Sous une forme ou sous une autre, la plupart des récits d'origine du bétail suivent ce schème narratif. Dans un autre récit, l'origine aquatique des vaches et des Wodabe est également mise en avant, mais d'une autre façon. Une femme, ayant conçu un garçon nommé Aku avec un génie des eaux, lui dit au garçon d'aller au bord du fleuve. Là, le génie des eaux sortit du fleuve et dit à Aku de faire un feu au bord de l'eau. Alors, des vaches et des bœufs surgirent du fleuve pour se diriger vers le feu et suivirent le jeune homme en brousse. Aku est l'ancêtre des Wodabe et les zébus de l'eau sont les ancêtres de leur bétail. Or, ce lien entre le bétail et les génies est loin d'être révolu. Selon ce que rapporte de Saint-Croix, qui, malgré son nom, est un anthropologue anglais qui a travaillé chez les Wodabe du nord du Nigeria, selon ce que rapporte de Saint-Croix donc à propos de ces Wodabe du Nigeria, certains d'entre eux affirment, je cite Saint-Croix, affirment que les esprits possèdent des troupeaux d'animaux sauvages et si un possesseur de bétail tire sur l'un d'entre eux, le génie se vengera en tuant des vaches de son troupeau, à moins que le berger ait réussi à lancer un sortilège contre le génie avant que celui-ci n'ait lancé le sien. Donc le troupeau de zébu, Wodabe, est conçu à l'image des troupeaux de bêtes sauvages que conduisent les génies. Certains de ces génies sont des propriétaires de bétail. Alors Saint-Croix en mentionne un qui s'appelle Kori Ranwa, qui est un esprit femelle qui possède de très grands troupeaux. C'est un génie qui est très blanc de peau, qui est habillé de blanc aussi, et c'est à elle qui est attribué, entre autres mots, la paralysie d'un côté du corps. Et on la consulte comme un oracle, là où elle réside, dans un grand baobab ou un tamarinier. Autrement dit, le collectif Wodabe est vu comme la réplique exacte de collectifs analogues de pasteurs non humains guidant leurs troupeaux d'animaux sauvages, collectifs dont certains membres, les génies, sont à l'évidence à la fois susceptibles et vindicatifs, raison pour laquelle il convient évidemment de les traiter avec égard. Pour les Wodabé, l'encastrement des rapports à la terre en devient plus compliqué encore. Non seulement il leur faut cohabiter une partie de l'année avec les Haoussa, avec leurs champs de mil, avec leurs marchés, avec leurs villages, avec leurs pullulements de génies locaux. Non seulement il leur faut partager des itinéraires et parfois des points d'eau avec les Touaregs, avec les Toubou et avec leurs troupeaux, mais il leur faut encore côtoyer des pasteurs non humains, puissants et irascibles, qui semblent en réalité beaucoup moins nomades qu'eux. Et les Wodabé ne parviennent à s'accommoder de tous ces collectifs et des espaces le plus souvent imbriqués, superposés, qu'ils occupent, qu'au prix d'une fluidité du rapport au sol, entretenue par une mobilité permanente dans un espace qui n'est territorialisé que pour les sédentaires. Ailleurs, le monde est lisse et ouvert. Mais peut-être faudrait-il dire « était lisse et ouvert ». Car le présent ethnographique que j'ai employé jusqu'à maintenant et qui correspond à la période des années 50 aux années 80 n'est plus tout à fait adéquat pour caractériser la situation contemporaine du Niger sahélien et saharien, dans laquelle tant les politiques environnementales spatialisées, marquées par l'injonction internationale faite aux populations de s'adapter à la désertification en sécurisant les ressources par une politique foncière, tant cela que l'exploitation des ressources minières, notamment l'uranium, dans des zones qui ont un quasi-statut d'extraterritorialité, tous ces phénomènes ont considérablement réduit la mobilité et la fluidité des populations nomades. C'est ce qu'ont bien montré deux géographes, Laurent Gagnol et Abdulkader Afan, dans un article récent de la revue Justice Spatiale. Cet article est axé sur la transformation du pastoralisme touareg dans la région d'Agadez, donc la même région au fond dans laquelle nomadisent les Wodabé, mais ces processus donc qu'ils étudient concernent autant les Wodabé puisque ceux-ci ont les mêmes parcours de nomadisation pastorale. Qu'est-ce qu'on observe ? On observe d'abord la création de points de fixation appelés localement puits boutiques. L'objectif est d'accaparer ou de construire un puits dans un espace pastoral que l'on s'approprie par ce geste, un mouvement renforcé par l'adjonction au puits d'une boutique vendant des produits de première nécessité. Donc ce processus aboutit à la fixation du campement autour du puits et à sa transformation en village qui cherchera évidemment à se faire reconnaître comme tel par l'administration. À cela s'ajoutent les forages de nouveaux puits permettant d'obtenir de facto des droits d'usage prioritaires sur les pâturages alentours, forages qui sont maintenant rendus beaucoup plus faciles grâce à l'appui financier et technique des projets de développement et des ONG intervenant dans la région. Quel est le résultat ? Le résultat est l'appropriation, voire la privatisation, des pâturages desservis par un puits. Et certains grands éleveurs vont même jusqu'à clôturer leur pâturage dans la région de l'Azawag, afin de s'en réserver l'usage exclusif durant l'hivernage, une fois que les pâturages naturels accessibles à tous se sont dégradés. De façon générale, comme l'écrivent Gagnol et Afané, l'espace de nomadisation pastorale, je les cite, est progressivement clôturé morcelée, privatisée, sanctuarisée. De plus, et pour faire face à la diminution des surfaces arables disponibles et à l'augmentation de la population, les agriculteurs sédentaires, à la recherche de nouvelles terres, s'installent de plus en plus au nord, au-delà de la limite qui séparait traditionnellement les zones de culture des zones de nomadisme pastoral, zone qui, en principe, est maintenant juridiquement réservée au pastoralisme. Donc les ranchs, les réserves de chasse privées se multiplient, comme aussi les aires protégées et les réserves naturelles, d'où les nomades sont exclus de droit. Et les pasteurs, qu'ils soient Touareg, Wodabé ou Toubou, sont désarmés devant ce processus, n'ayant eux-mêmes aucun droit exclusif, on l'a vu, sur leur terrain de parcours. Ils n'ont des droits que sur les puits qu'ils ont fait forer. Ils n'ont aucun recours face à l'accaparement des terrains, autrefois ouverts à tous, mais de fait réservés aux activités pastorales. La situation actuelle pose donc un terrible dilemme. Comment assurer la viabilité du pastoralisme nomade face aux pressions foncières externes, tout en évitant les appropriations territoriales exclusives de pâturage et de points d'eau qui figent le pastoralisme et vont à l'encontre de l'esprit de la pratique du nomadisme. Donc, comme c'est souvent le cas en matière d'aide au développement, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Car la politique de sécurisation foncière visant à fixer les nomades à l'année sur des terres de pâture tend à figer leur capacité à surmonter les périodes de sécheresse en empêchant la seule stratégie efficace en la matière, à savoir l'extrême mobilité. En outre, des études économiques ont montré que le pastoralisme extensif était plus efficace en termes de coûts énergétiques et écologiques que la stabulation dans des pâturages fixes. Or, l'actuelle politique foncière du Niger, inspirée du modèle français, vise à territorialiser dans un zonage imbriqué les différentes activités productives de la région sahélienne et saharienne. Et la logique de gestion de l'espace, fondée sur le modèle du terroir villageois, un terroir, un village, est désormais étendue à la gestion de l'espace pastoral, selon le principe « un village, une aire de pâturage », signant ainsi la fin de la flexibilité et de l'efficacité opportuniste du pastoralisme nomade. J'avais, lors de la première leçon, fait une critique de la notion d'appropriation territoriale en montrant à quel point cette notion était liée tout à la fois à la conception moderne du rapport à la terre, fondée sur l'individualisme possessif, et au mouvement concomitant et sans cesse en expansion de privatisation des biens communs. Et j'avais en particulier signalé à quel point cette notion d'appropriation territoriale était eurocentrique et peu adéquate lorsqu'il s'agit de définir des rapports à la terre encore vivaces dans d'autres régions de la planète. L'exemple du Nord-Niger, comme beaucoup d'autres que nous aurons l'occasion d'examiner, montre malheureusement que le lent grignotage des biens communs par l'appropriation privative a non seulement contaminé les consciences en nous faisant prendre pour une disposition naturelle le produit d'une trajectoire historique singulière, mais qu'il continue encore maintenant de s'attaquer à des formes d'association entre les êtres, à des types d'attachement entre collectifs et à des modalités de rapport à la terre qui tentent obstinément de survivre à sa périphérie. La situation d'encastrement de collectifs nomades et sédentaires que je viens de décrire n'a rien d'exceptionnel. Surtout en Asie. Surtout en Asie, en effet, où les tentatives de faire correspondre une ère écologique homogène et une ère culturelle homogène que des auteurs qui, dans les années 20 et les années 30, comme Kreuber ou Alfred Kreuber ou Clark Whistler, avaient mené afin de classifier les cultures autochtones en Amérique du Nord, qui sont à la naissance de cette notion des aires culturelles, de la correspondance entre des aires naturelles et des aires culturelles, ces tentatives se sont heurtées, lorsqu'on a tenté de les appliquer à l'Asie, à des situations en fait beaucoup plus intriquées, dans lesquelles des communautés avec des techniques d'usage du milieu très différentes coexistent de façon complémentaire dans un même environnement. Et, par exemple, Carleton Kuhn définit les formes sociales du Moyen-Orient comme organisées selon ce qu'il appelle un principe de la mosaïque, c'est-à-dire composées de nombreux groupes ethniques qui cohabitent dans des relations symbiotiques plus ou moins denses. Et c'est une remarque qui pourrait s'étendre à la totalité de l'Asie où domine une combinaison originale entre la segmentation ethnique et l'interdépendance économique, de sorte que le milieu de n'importe quel groupe ethnique n'est pas seulement défini par l'écosystème avec lequel ce groupe interagit et qu'il aménage, mais aussi par la présence et l'activité d'autres groupes ethniques dont il dépend et qui exploitent d'autres niches de cet écosystème. Un bon exemple de cela, à plusieurs milliers de kilomètres de l'Afrique sahélienne, est le système étudié en 1958 par Frédéric Barthes en Iran, qui ressemble en plus complexe à celui du Niger et dans lequel des groupes très diversifiés de pasteurs nomades et de populations sédentaires occupant des terroirs agricoles et des oasis coexistent dans un espace qui est à la fois écologiquement plus contrasté et plus densément peuplé que celui des Wodabe. L'analyse de Barthes est centrée sur les Bassari. C'est une tribu nomade iranophone d'environ 3000 tentes, localisée au sud de l'Iran et qui se déplace en masse vers le nord au printemps pour camper durant l'été sur les riches alpages d'altitude du Kouiboul. Et elle retourne à l'automne pour hiverner dans les collines désertiques à l'ouest de la ville de Lahr, chaque trajet prenant entre 2 et 3 mois. Si le site des campements change presque chaque jour lors des migrations, les groupes de tentes sont moins mobiles durant l'été et durant l'hiver, où ce sont surtout des différends entre familles qui provoquent des fissions. Ces migrations concernent près de 15 000 personnes et plusieurs centaines de milliers d'animaux. Alors j'emploie le présent ethnographique de la description de Barthes, c'est-à-dire la fin des années 50. Elle se déploie, cette migration, dans une bande de territoire de 500 km de long sur une soixantaine de kilomètres de large. Et cette bande de territoire a un nom. Elle est appelée Ilra. C'est la route de transhumance et elle est considérée par les Bassari comme un droit d'usage qui leur est reconnu par les populations locales et par les autorités sous la forme d'un ensemble de privilèges. Droit de passage sur les routes, droit de passage sur les terres non cultivées, droit de pacage hors des champs et sur les friches, droit de tirer de l'eau partout, sauf dans les puits privés. Et du fait du climat chaud et aride, l'agriculture qui est concentrée dans la région autour de la ville de Shiraz dépend très fortement de l'irrigation artificielle par le biais de canaux, de puits ou de canates, qui sont ces galeries de drainage souterraines acheminant l'eau vers des citernes. Et c'est pourquoi les Bassari tentent en général d'éviter, lorsque c'est possible, de passer près d'établissements sédentaires irrigués pour s'abreuver. En outre, les Bassari faisaient partie d'une confédération, une structure pluriethnique, plus englobante, appelée Khamsé, de l'arabe 5, qui comprenait donc 5 tribus. 3 tribus turcophones, les Baharihu, les Nafar et les Inanlu, une tribu iranophone, les Bassari, et une tribu arabophone, les Arabes de Fars. Cette confédération, qui a été fondée dans la deuxième moitié du XIXe siècle par une puissante famille de Fars pour des raisons commerciales et politiques, n'avait plus vraiment d'existence politique au moment de l'enquête de Barthes. Demeurait toutefois l'habitude consensuelle et bien ancrée d'utiliser des étages situés à des altitudes différentes au sein des mêmes écosystèmes, et donc de partager des niches écologiques entre les différentes tribus constituant la confédération. Dans la partie haute, les turcophones élèvent des chameaux de Bactriane qui sont bien adaptés aux rigueurs de l'altitude. Plus bas, les iranophones élèvent des chevaux et du petit bétail. Et dans les zones de Piémont, les arabophones vivent de l'élevage extensif des dromadaires. En outre, chacune des 5 tribus de la confédération Khamsé possède sa propre route tribale Ilra, qui se caractérise à la fois par un itinéraire et par un calendrier fixant traditionnellement des dates de départ des migrations et la durée d'occupation des sites. Or, comme le souligne Barthes, chaque tribu considère son Ilra comme sa propriété. C'est le mot qu'il emploie, « property ». Et cette propriété existe sous la forme de droits de passage et d'usage, que j'ai précédemment mentionné, et elle est reconnue par tous, nomades, comme sédentaire. Cela dit, l'itinéraire étant déterminé en fonction des parcours, des voies de communication, des pâturages et des points d'eau disponibles, tandis que le calendrier dépend du degré de maturation des différents pâturages le long de la route, mais aussi des mouvements des autres tribus, vous voyez, c'est un dispositif très complexe, il en résulte que les droits attachés à un ILRA, une route de transhumance, n'impliquent en aucune façon un accès exclusif à un site quelconque au cours de l'année, rien n'empêchant différentes tribus d'utiliser les mêmes sites à des moments différents, ce qui est la situation la plus commune dans cette région. Alors, il y a une autre confédération tribale qui s'appelle les Kashkés, qui sont entièrement turcophones cette fois, et qui jouxtent les Bassari à l'ouest. Et une partie de la route migratoire des Bassari recoupe celle d'une tribu de la confédération Kashkés, qui sont les Chichbéloukis. En outre, pour ajouter à la complexité de l'occupation d'espace, la transhumance Bassari suit au printemps et précède à l'automne la transhumance d'une tribu iranophone indépendante, n'appartenant à aucune des deux confédérations, mais politiquement alliée à la confédération Kashké, qui sont les Kurdchouli. Et tandis que les relations au sein de la confédération Khamsé et avec les sédentaires sont dans l'ensemble plutôt pacifique, les rapports avec les Kashkés et les Kurdchouli sont passablement tendus, et c'est dans la compétition avec eux pour les terrains de parcours que les notions plus traditionnelles de territorialité deviennent pertinentes. Mais dans un sens très particulier, les rapports conflictuels entre tribus appartenant à des confédérations différentes sont gérés par leurs chefs respectifs à l'occasion de visites d'État, des visites très protocolaires qui sont l'occasion de démonstrations ostentatoire d'hospitalité. Ils sont discutés, les différents qui les opposent, notamment les empiétements sur les terrains de parcours, et surtout les tentatives que font les plus riches et les plus puissants des nomades d'acheter des terres pour les faire cultiver par des métayers. Pourquoi ? Parce que l'une des motivations pour cette politique foncière, c'est moins les maigres revenus qu'elle procure, que la possibilité de convertir ces exploitations agricoles en points fixes, des itinéraires de pasteurs, des pasteurs qui les possèdent, et de leurs alliés bien sûr, et aussi lorsqu'elles sont situées dans des zones frontières, entre tribus, d'en faire une base pour tenter de contrôler des pâturages ou des points de passage au détriment des pasteurs extérieurs à la formation. Donc le contrôle territorial ici, loin d'être un but d'accumulation en soi, comme il pourrait l'être par exemple dans une société paysanne, devient un moyen de s'assurer de nouveaux parcours aux dépens de tribus voisines afin de rendre plus fluide et plus efficace le pastoralisme nomade.
Le Collège de France et France Culture vous présente l'anthropologue Philippe Descola, les usages de la terre, cosmopolitique de la territorialité, aujourd'hui quelques leçons de l'imbrication spatiale.
Dans un article auquel j'ai fait référence lors de ma première leçon, Territoire et propriété dans quelques sociétés précapitalistes, Maurice Godelier interprétait la transhumance Bassari comme un exemple de partage d'un même territoire par des sociétés distinctes, tant nomades que sédentaires. Il me semble que l'on peut aller un peu plus loin et voir l'occupation de l'espace par la Confédération Khamsé et la Confédération Kashké, moins comme un classique zonage territorial que comme un droit d'usage revendiqué par des collectifs sur certains itinéraires pastoraux à certains moments de l'année au sein d'un environnement sur lequel ils ne cherchent pas par ailleurs à exercer une emprise autre que celle qui consiste à se garantir la jouissance renouvelé de ce droit. Il y a une différence entre l'appropriation d'un territoire, même partagé, et la revendication de l'usage transitoire des sites d'un itinéraire. Dans le second cas, en effet, la vie du collectif et la mémoire de son identité s'attachent moins à une étendue conçue comme un tout qu'aux repères singuliers et aux affordances, pas de traduction véritable en français, variables, qui, année après année, scandent ces trajets. Comme le notent fort heureusement Deleuze et Guattari à propos du nomade, je les cite, c'est dans Mille Plateaux, même si les points déterminent des trajets, ils sont strictement subordonnés aux trajets qu'ils déterminent, à l'inverse de ce qui se passe chez les sédentaires. Au fond, une des principales leçons de l'imbrication spatiale dans les usages de la Terre est que la co-résidence de collectifs différents est possible et même souhaitable, soit quand ils exploitent des ressources différentes au sein d'un même territoire, sans se porter tort réciproquement, soit quand ils exploitent des niches écologiques différentes. Et ce dernier cas a été bien décrit, pas Frédéric Barthes encore, mais dans une autre étude ethnographique. Frédéric Barthes est un personnage extraordinaire, un ethnographe qui a mené peut-être une dizaine d'études ethnographiques dans les régions les plus diverses de la planète, s'il n'y a pas d'équivalent, et chacune d'entre elles est pleine d'enseignements. Une autre étude ethnographique, donc, alors évidemment c'est dans un pays voisin, mais très différent de l'Iran à bien des égards, c'est dans la région de Swat, au nord du Pakistan. Swat est un ancien état princier, en partie passé sous le contrôle des talibans à partir des années 2000 et que le gouvernement pakistanais a réussi en partie à récupérer, mais en partie seulement. Le présent ethnographique est donc celui de l'étude de Barthes dans les années 50. C'est une région de montagne, hein, c'est le nord du Pakistan, culmine à 6000 mètres pour la partie la plus septentrionale, et qui s'abaisse progressivement vers le sud, traversée par deux grandes vallées orientées nord-sud, où coulent respectivement l'Indus et la rivière Swat, au fond de gorges spectaculaires. Et les trois principaux groupes ethniques sont les Pashtuns, qui sont des agriculteurs sédentaires très largement majoritaires, avec une population de 450 000 personnes, les Kohistani, qui sont des locuteurs d'une langue darde, probablement les premiers habitants de la région, et qui pratiquent une combinaison d'agriculture et de transhumance pastorale. Ils ne dépassent guère 30 000 individus. Et enfin, les Gourjars, qui sont des pasteurs nomades, qui parlent une langue gourjari, donc ils sont originaires du sud, plus récemment arrivés, dont la population est difficile à estimer. Voilà donc la carte de la région qu'ils se partagent. La ligne de tiret sépare la zone Pashtun de la zone Kohistani, et à l'intérieur de la zone Kohistani, il y a une séparation entre la zone pastorale des Gourjars, mais on verra que les Gourjars sont aussi disséminés dans les interstices de la région Pashtun. Alors, les Pashtuns de la région de Swat constituent une société segmentaire et hiérarchisée, très hiérarchisée même, de propriétaires terriens pratiquant l'agriculture irriguée des céréales, avec un cycle de jachère. Et les tribus les plus importantes, les plus hiérarchisées, étant situées dans les plaines alluviales fertiles des cours inférieurs de l'Indus et de la Swat. Même dans sa partie la plus septentrionale, le territoire Pashtun est confiné à la zone écologique et climatique permettant deux récoltes annuelles. Et il offre donc l'occasion d'accumuler des surplus nécessaires au fonctionnement d'une société où la dépense ostentatoire et le clientélisme sont des mécanismes centraux d'acquisition de prestige. Les Kohistani furent repoussés au nord de la région Pashtun, par les Pashtuns, et pratiquent aussi l'agriculture, mais sur des terrasses irriguées à flanc de montagne et avec une productivité moindre. Ils sont en outre, et peut-être même pourrait-on dire surtout, des éleveurs transhumants de moutons, de chèvres, de vaches, de buffles, et ils peuvent passer jusqu'à 8 mois par an à nomadiser vers des campements d'altitude jusqu'à plus de 4000 mètres. Enfin, les Gourjars sont des éleveurs nomades et ils se procurent des céréales en échange de produits animaux et ils se distribuent autant dans les zones Kohistani que dans les zones Pashtun. Mais pour les zones Kohistani, seulement dans la partie occidentale. Or, les Gourjars pratiquent deux formes d'élevage selon la zone où ils sont situés. C'est-à-dire qu'ils ont deux formes d'imbrication avec des populations qui sont dans un cas sédentaires, dans l'autre cas à la fois sédentaires et nomades. Ils font de la transhumance dans la région des Pashtuns et entretiennent avec les Pachtounes une relation symbiotique dans laquelle ils figurent comme une caste d'éleveurs dépendants. C'est-à-dire qu'ils résident dans les villages, sédentaires, une partie de l'année, et utilisent les flancs de montagne qui sont laissés inoccupés par les Pachtounes afin d'y déplacer leurs troupeaux durant l'été. Ce sont des troupeaux de buffles principalement, en échange de redevances en nature qu'ils donnent aux Pachtounes. Donc la complémentarité dans l'usage des niches écologiques rend ainsi la cohabitation entre Pachtounes et Gourjars satisfaisante des deux points de vue. Dans la région Kohistanie, en revanche, c'est-à-dire dans la partie nord, les Gourjars ont un mode de vie à peu près exclusivement nomade, raison pour laquelle ils privilégient les troupeaux de chèvres et de moutons qui sont plus mobiles. Or, la relation entre les deux groupes est ici moins complémentaires, puisqu'ils exploitent l'un et l'autre, comme éleveurs, les mêmes niches écologiques. Et c'est la raison pour laquelle les Gourjars n'occupent que la partie ouest du pays Kohistanie, celle drainée par la Swat, où les conditions de relief et les conditions de climat imposent d'affourager les animaux pendant l'hiver. Cette restriction ne s'applique toutefois qu'aux Kohistanis, qui sont semi-sédentaires, tandis que les Gourjars, qui sont vraiment nomades, peuvent, eux, se déplacer dans les plaines basses plus au sud, où ils trouvent l'herbe nécessaire pour nourrir leurs troupeaux. Et évidemment, ces conditions n'existent pas dans la partie est, qui est drainée par l'Indus, dans laquelle les Kohistanis occupent donc la totalité des niches écologiques, ne laissant aucun espace interstitiel utilisable par les Gourjars. Donc, dans cette région de la Swat, l'encastrement territorial, il est fonction à la fois des niches écologiques exploitées par les différents collectifs, de la complémentarité des usages de la terre dans laquelle ils se sont spécialisés, et d'une hiérarchie des collectifs rendue effective par les plus puissants, en l'occurrence les principales tribus pachtounes, qui garantit que cette complémentarité n'aboutit pas à des empiétements et à des conflits. Et comme dans tous les exemples précédemment examinés, les positions de nomades et de sédentaires ne sont pas absolues. Elles sont relatives aux circonstances. Le nomadisme pastoral peut être permanent, comme chez les Wodabé ou comme chez les Gourjars, et se déployer pour partie dans des terrains de parcours sans concurrence et pour partie dans des interstices de sociétés qui sont elles-mêmes semi-nomades, comme certains groupes peuls ou comme les Kohistanis. De même que des pasteurs plus ou moins sédentaires peuvent décider de redevenir nomades pour un temps plus ou moins long, par exemple lorsqu'une longue période de sécheresse rend l'agriculture incertaine, quand ce n'est pas le cas de nomades qui, à l'inverse, se sédentarisent et trouvent un régime symbiotique qui leur est favorable avec des populations agricoles. Dans tous les cas, on voit combien la notion de l'appropriation d'un territoire par une société est malaisée à manier, puisque différents collectifs font usage d'un même espace régional de toutes sortes de manières, sans qu'il y ait pour autant conflit la plupart du temps, puisque la diversité des usages est précisément rendue possible par le fait que chacun de ces usages ne devient légitime et réalisable que si la totalité de la gamme des rapports à la terre est nettement perçue comme un champ de complémentarité par les collectifs qui les mettent en œuvre. Je voudrais revenir en deux mots sur ces pages de 1000 plateaux que j'évoquais il y a un moment, dans lesquelles Deleuze et Guattari proposent leur célèbre traité de nomadologie. Ils ont parfaitement raison de contraster le chemin du sédentaire qui distribue aux humains un espace fermé, un territoire donc, avec l'itinéraire du nomade qui distribue les humains et leurs animaux dans un espace ouvert. Mais il faut prendre garde de ne pas les mésinterpréter lorsqu'ils écrivent que cet espace ouvert, je les cite, « sans frontières ni clôtures, est lisse, seulement marqué par des traits qui s'effacent et se déplacent avec le trajet. » Car cet espace lisse du nomade, qui ronge et croît en toute direction lorsqu'il se déplace avec lui, le nomade le transporte avec lui, comme une sphère de liberté contrainte par l'accessibilité de ce qui est nécessaire à sa vie. Bref, le nomade, crée les conditions de l'espace qu'il habite et qu'il parcourt, au lieu de les recevoir et de les entretenir, mais cet espace lisse, il n'existe lui-même que dans les interstices d'espaces territorialisés par d'autres et en osmose avec eux. Et tout porte à croire que ce genre de complémentarité est à la fois ancien et commun tout autour du monde. Donc, après avoir examiné la façon dont coexistent des collectifs territorialisés et des collectifs déterritorialisés, libres les uns comme les autres, formant des associations composites de diverses sortes d'êtres, je voudrais commencer à aborder dans cette leçon le rapport à la Terre développé par des collectifs d'humains et des collectifs de non-humains composés chacun des mêmes types d'êtres et régis par les mêmes types d'institutions, des collectifs monospécifiques donc, qui coexistent au sein d'un même espace et entretiennent entre eux toute une gamme de relations qui vont du partage à l'hostilité. Ce sont les collectifs que j'ai qualifiés d'animistes et dont il faut brièvement rappeler les caractéristiques telles que je les avais définies dans la deuxième leçon. Partout où le régime ontologique de l'animisme domine, dans cet archipel discontinu qui va des basses terres de l'Amérique du Sud, haute latitude de l'Amérique du Nord, en passant par l'Asie, enfin passant, incluant aussi l'Asie orientale et un chapelet de populations d'Asie du Sud-Est et de Mélanésie, on retrouve les mêmes types de collectifs, mais peuplés par des existants très différents. Car chaque forme d'être constitue un collectif à part, une espèce sociale caractérisée par une morphologie, par des dispositions et par un type de comportement particulier, soit un genre de regroupement qui combine les attributs d'une espèce naturelle et d'une tribu. Dans le cas des humains, chaque groupe ethnique, chaque tribu, chaque unité dialectale est donc vue à l'instar d'une espèce dont les moyens d'agir sur le monde et la façon de l'occuper sont la résultante d'un équipement qui lui est propre. Les outils, les armes, la langue, les parures, l'habitation, les techniques de subsistance, les formes d'autorité, les règles de mariage, les règles de la descendance, tout ce que nous avons l'habitude de considérer en Occident comme des attributs culturels typiques d'un groupe humain, sont au contraire vus en régime animiste comme des attributs qu'on pourrait appeler naturels, même si le terme n'a guère de sens dans ce contexte, qui sont intrinsèques en tout cas à l'espèce particulière d'humain qu'ils caractérisent et servent à identifier, de la même façon que la forme du bec, la couleur du plumage, le type de nid, le régime alimentaire et les messages sonores vont permettre de différencier telle ou telle espèce d'oiseau. Donc le monde animiste, il est composé de collectifs d'humains et de collectifs de non-humains, pour l'essentiel parmi ces derniers des espèces animales, des espèces végétales et des races d'esprit, de fantômes, de présences surnaturelles, si vous voulez, qui sont tous régis par des institutions semblables à celles du collectif humain qui sert de gabarit interprétatif au collectif de personnes non humaines avec lesquelles il interagit. Donc, selon que l'on voit, disons, l'espèce des Pécari, à partir du point de vue de la tribu-espèce des Atchouars, ou à partir du point de vue de la tribu-espèce des Yaguas, l'une et l'autre des populations amazoniennes entretenant des relations avec des collectifs de Pécari, eh bien, la forme organisationnelle que la tribu-espèce des Pécari revêt et les valeurs qui l'animent vont varier. Ils sont belliqueux dans un cas, pacifiques dans l'autre, possédant leur propre chaman dans un cas, ou dépendant de ceux d'autrui dans l'autre, préférant la vie villageoise dans un cas, ou l'habitat dispersé dans l'autre. Et c'est ce genre de variation contrastée que l'on a pu voir dans la quatrième leçon consacrée au territoire imbriqué des collectifs humains et des collectifs non humains dans le nord-ouest de l'Amazonie. De ce point de vue, les membres de tous les collectifs sont réputés se voir eux-mêmes comme des humains. Quelle que soit par ailleurs leur forme générique, et ce n'est qu'aux yeux des autres collectifs que chacun d'entre eux apparaît avec ses caractéristiques singulières. Autrement dit, l'identité d'un collectif n'est visible ici qu'aux yeux des autres. Ces particularités de forme et de comportement ne sont appréhendées comme des signes de sa singularité que par ceux qui appartiennent à d'autres tribus, espèces. Un bon exemple de la façon dont cet emboîtement des points de vue produit des collectifs différenciés est offert par un mythe des Matsigenga de l'Amazonie péruvienne recueilli par France-Marie Kazevitz et publié dans sa monographie « Le banquet masqué ». Les Matsigenga, ce sont un peuple de langue arawak vivant sur les piémonts orientaux des Andes centrales du Pérou, à la charnière des formations étatiques des hautes terres andines et des Indiens de la forêt amazonienne. Ils sont exposés donc depuis des millénaires aux visées annexionnistes des États andins, des formations politiques centralisées andines à l'ouest, mais aussi aux menaces guerrières des sociétés de l'aval, c'est-à-dire à l'est. Et donc ils ont tiré de cette position inconfortable, intermédiaire, interstitielle, une philosophie de l'altérité et une réflexion sur la condition humaine qui se donne à voir de façon particulièrement originale dans leurs mythes. Ces mythes montrent bien comment cette population de l'entre-deux se représente le défi posé par la coexistence avec des voisins qui cherchent sans trêve à les assimiler, soit pour les identifier à eux, c'est le cas des formations politiques andines, soit pour s'approprier leur identité, c'est le cas des populations amazoniennes qui les jouxtent à l'est. Le mythe que rapporte France-Marie Kazevitz relate un voyage entrepris par des Matsigenga à la découverte du monde. Et donc ils arrivent chez différents peuples qui sont définis à chaque fois par leur régime alimentaire. Chaque nouveau peuple semble en tout point semblable aux visiteurs. Il parle la même langue, communique sans difficulté, il a le même genre d'habitation, le même type de technique de subsistance, et l'environnement forestier qu'occupe ce peuple ne diffère en rien de celui des Matsigenga. Les gens qu'ils visitent en premier lieu leur offrent du poisson pour le dîner, puis leur proposent qu'ils mangent avec eux, et ils leur proposent le lendemain d'aller pêcher avec eux. Mais en fait, les amphitryons capturent des serpents venimeux qu'ils appellent poissons et qu'ils consomment comme tels. Les Masséyenga font montre de leur répugnance à l'idée de manger cela, et leurs amphitryons leur disent « Mais c'est qu'à cela ne tienne, si vous voulez manger des serpents venimeux, allez dans la rivière où il y en a beaucoup. » Et donc, ils vont dans la rivière pêcher des poissons, et ils les ramènent au village où ils sont hébergés. Chacun des deux groupes, voyant les autres ramener ce qui, à leurs yeux, est des serpents, lui reproche de manger une nourriture immonde, et chacun décide de manger à part à la nuit tombée. Les amphitryons consommant leurs serpents qu'ils voient comme des poissons, tandis que les Masséyenga consomment leurs poissons que les maîtres de maison voient comme des serpents. Les visites dans d'autres villages se succèdent. Le village suivant, il est peuplé par des gens qui mangent des serpents corail, un serpent très commun en Amazonie, un petit serpent avec des anneaux rouges et noirs, qu'ils appellent paca. Paca, c'est un petit mammifère à la chair délicate que tous ceux qui ont fréquenté l'Amazonie se souviennent avec plaisir. Le même genre de quiproquo se reproduit. Les Masséyenga vont débusquer un paca dans un terrier qu'ils rapportent pour le dîner, au grand dégoût de leurs amphitryons qui n'y voient qu'un gros serpent corail. Tandis que les Masséyenga reprochent à ceux qui les accueillent de manger des serpents corail qu'ils prennent pour des pacas. Le village suivant est habité par des gens qui piègent et mangent des chauves-souris, qu'ils voient comme des oiseaux tangara, petits oiseaux aussi très classiques de la région. Le village suivant encore est peuplé de gens qui chassent à l'arc des boules de feu qu'ils voient comme des aras. Et de là, les Masséyenga se rendent chez des mangeurs de vautours qui voient ces charognards comme des pénélopes. Ce sont des oiseaux très communs aussi en Amazonie qui ont l'apparence et la taille d'une pintade et qui sont un gibier de choix. Et ils décident alors de rentrer chez eux. Alors on notera que dans cette sorte d'ethnographie Masséyenga des collectifs, c'est la capture des animaux qui révèle aux yeux des visiteurs la véritable nature de leurs amphitryons. Car le repas qu'on leur offre à chaque fois à leur arrivée ne leur permet pas de discerner qu'ils mangent autre chose que ce qu'on leur a présenté comme du poisson, comme du paca ou comme des pénélopes. Donc le traitement culinaire uniformise les nourritures qu'ils transforment et c'est seulement dans l'action pratique de se procurer ces nourritures que leur identité réelle se révèle et donc, ipso facto, l'identité de ceux qui les consomment.
Du Collège de France, vous venez d'écouter le 30 mars 2016 Philippe Descola, Les usages de la terre, cosmopolitique de la territorialité, aujourd'hui quelques leçons de l'imbrication spatiale. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion ainsi que l'ensemble des cours de Philippe Descola. L'anthropologue a notamment publié « Par-delà nature et culture » en 2005 chez Gallimard et plus récemment « La composition des mondes, entretien avec Pierre Charbonnier chez Flammarion en 2014. Un grand merci à Annie Signoret de la Bibliothèque de Radio France. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons en compagnie de Philippe Descola l'analyse des collectifs monospécifiques. Et dans quelques instants, nous retrouvons Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.